Nous sommes de retour.
Pour vous jouer un mauvais tour.
Nous repartons pour une nouvelle saison.
Pour rallier tous les joueurs à notre passion.
Pour redonner vie à des jeux du passé.
Ces joueurs vont vous étonner.
Aldra.
Stefcor.
Speedrunner, l'envers du décor.
Écoutez-nous, ou ce sera la guerre.
Bienvenue à tous, nous sommes donc repartis pour une nouvelle saison de Speedrunner, l'envers du décor. Stefcor est toujours avec moi, coucou Stefcor.
Hello Aldran, ouais, un retour après de bonnes vacances hein, quand même. Hein.
Ouais, il paraît qu'on a eu quelques petits imprévus aussi, oui, on va dire.
C'est personnel qui a fait qu'on a dû avoir une interruption un petit peu longue, mais là on est revenu sur de bonnes bases, hein. Normalement là c'est beaucoup plus régulier.
On espère, du moins.
Très, très, très heureux de se retrouver.
Et nous sommes évidemment pas seuls, parce qu'aujourd'hui, nous accueillons un invité unique en son genre, Underscore Poi.
Salut les gars.
Comment vas-tu?
Bah, ma foi, ça va bien. Hein. Dimanche, le jour du repos, donc ça fait toujours du bien.
Donc,
pas pour tout le monde, hein.
Ouais, bah vous avec pour gérer le studio, mais bon, moi je suis en détente.
C'est ça. Donc, que fais-tu dans la vie?
Dans la vie, je suis vendeur dans une boucherie semi-artisanale, on va dire.
Semi-artisanale.
Ouais, c'est à mi-chemin entre le petit artisan, et c'est moins développé que des grandes surfaces ou des choses comme ça. C'est un peu entre les deux, c'est un peu hybride.
Bah, comme mon époque, j'avais parlé de le CSN, parler de marque et tout, c'est un peu comme le style la boucherie. Je sais que moi je suis de l'ouest de la France, mm-hmm. Là, ce qu'on appelle la boucherie, qui est justement des sorties salées un petit peu plus importantes qu'une boucherie traditionnelle.
Ouais, je pense que ça peut s'en rapprocher, ouais.
D'accord. Ouais, tu travailles du lundi au samedi.
Ouais, les horaires sont assez variables. C'est vraiment en fonction des plannings. On peut même travailler le dimanche matin, parce que oui, on travaille le dimanche. Et donc voilà, quoi. 35 heures, mais ça peut faire des bonnes journées de temps en temps aussi.
Ah, si, j'ai plein de gens qui travaillent le dimanche. Hein. Par contre, ouais. Par exemple, j'ai travaillé 12 heures aujourd'hui.
Ouais, ça dépend. Hein.
Mais c'était la dernière. Mais non, mais j'avais la particularité de travailler en SD, c'est vrai que travailler le week-end offre. Après, moi j'avais par contre la souplesse de ne pas travailler là.
Mais bon, ça c'est le boulot. Après, à côté, évidemment, j'imagine que tu joues un peu aux jeux vidéo, sinon tu serais pas là.
Non, c'est pas vrai. Non, si, enfin, je suis pas un grand fan de jeux vidéo au final, parce que je joue pas tant que ça, on va dire en casual, juste pour jouer, quoi. Je fais pratiquement 99% du speedrun et très peu de jeux, et tout ce qui est nouvelle génération, au-delà de la PS3, je suis complètement largué, donc je suis un peu un vieux sans être trop vieux, quoi.
Mais tu fais pas qu'un seul, justement, tu fais pas qu'un seul speedrun, quoi.
Non, j'essaie de me diversifier. Après, j'essaie de faire en fonction de jeux que j'aimais bien quand j'étais jeune. Il y a quelques jeux où j'ai essayé de faire complètement abstraction de si j'aimais, si je connaissais ou pas. Mais c'est des jeux que j'ai vraiment du mal à me concentrer et à passer des heures à pratiquer. Alors que les jeux que j'ai joués pendant des heures quand j'étais plus jeune, eux, j'ai absolument aucun problème. Je peux m'entraîner dessus pendant des heures. Sur des sections particulières, il y a le côté affectif qui aide en fait.
Et donc, principalement, tout ce que tu speedrun, donc il me semble que c'est Pokémon en général, parce que t'as pas qu'un seul jeu, mais il me semble qu'à côté tu fais autre chose. Enfin, c'est quoi déjà, Stefcor, rappelle-moi.
Oui, non, parce que tu fais aussi du super play. Du super play. Et j'avoue que je te hais particulièrement, parce que j'ai découvert, j'ai fait avec le stream, et j'ai vu que tu faisais, ce qu'on va appeler plus du super play sur un autre jeu.
Guitar Hero, tu veux parler?
Ouais, parce que moi je t'avoue, je joue juste en difficile. je me galère, mais et en fait, quand je te dis, t'es un excellent, t'es vraiment joueur hardcore sur Guitar Hero, très impressionnant. Je vais essayer à tout le monde de te regarder parce que c'est vraiment scotchant et t'as un niveau absolument exceptionnel, quoi.
Merci. Ouais, après c'est pas mon avis sur moi-même, on va dire, mais bon, ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui est apparu assez récemment dans les streams, et notamment c'était pendant une partie où j'en avais un petit peu marre de tourner autour de Pokémon. Je cherchais un petit peu des jeux à essayer de refouiller dans le passé de ce que j'avais fait, et au final, au-delà de Pokémon, j'avais Beyond Good and Evil, qui est un très bon jeu de la franchise Ubisoft, qui est sorti dans les années 2000 et que j'ai pas mal farmé quand j'étais jeune. Et donc celui-là aussi, je l'ai un petit peu farmé en speedrun, et ensuite j'en ai eu marre, je voulais pas trop revenir à Pokémon, et donc j'ai essayé de trouver quelque chose qui serait à la fois un passe-temps et à la fois quelque chose qui nécessite un peu de tryhard, parce que je suis un peu comme ça dans la vie de tous les jours. J'aime bien tryhard les choses. Et au final, je me suis remis là-dessus, après ne pas y avoir joué pendant 2 ans, enfin là-dessus sur Guitar Hero. Je me suis remis pendant 2 ans, et puis voilà, j'ai découvert tout un autre panel de gens qui sont en dehors de la communauté Pokémon, et une communauté Guitar Hero qui est vachement développée, alors que c'est un jeu qui était mort pendant un certain temps. Et donc ouais, c'est super plaisant en tout cas, et puis voilà, ça permet de décompresser tout en avoir l'impression de faire quelque chose d'un peu utile, quoi.
Et ces jeux de rythme, tu joues qu'à Guitar Hero ou de temps en temps tu te tentes à faire d'autres trucs comme Stepmania ou d'autres choses de ce genre là?
Non, pas du tout. Je fais en fonction de ce que je jouais quand j'étais plus jeune au final. Et Guitar Hero, c'est quelque chose que j'ai commencé quand même assez tard, mais bon, pour certains, c'est. J'avais quoi, je devais avoir 12 ou 13 ans. La franchise avait déjà pas mal évolué. Je connais des gens qui jouent depuis que pratiquement le premier est sorti. Mais voilà, je fais toujours en fonction de ce que j'aimais quand j'étais jeune, parce que c'est quelque chose qui est ancré et qui me permet de pas, on va dire, m'énerver ou de pas m'enlacer. Des jeux comme Ozu ou des choses comme ça, je me verrais incapable de m'essayer à ça, quoi. Ça fait pas partie de mon arsenal technique pour l'instant.
Mais tu disais, ouais, t'as commencé tard à 12-13 ans, mais au final, c'est pas une chose, t'as demandé ton âge à toi, parce que c'est un peu vieux, mais ça m'a pas l'air au final.
Non, j'ai 22 ans, donc oui, voilà, c'est assez jeune, mais bon, pour des gens qui jouent...
jeune. Pardon.
Non, j'ai 22 ans, ouais, donc voilà.
Bah, tu vois, moi j'ai commencé à jouer à Guitar Hero, j'avais déjà perdu mon respect, parce que c'est beaucoup plus... ouais, je dois être beaucoup plus vieux que... Non, je suis plus vieux que toi, je vais pas me vexer. Mais j'avais déjà perdu mes respects. Et je suis plus vieux que sur Guitar Hero, il y a une très forte communauté. C'est vrai que j'ai eu, je sais pas, quasiment 8 ans entre l'introduction, je pense, au dernier Guitar Hero et le Guitar Hero Live, c'est ça. Cette année ou l'année dernière.
Ouais, l'année dernière, ouais.
Ah, ça passe super bien.
Après, c'est vrai que la communauté s'est vachement développée autour du troisième opus, le Guitar Hero 3, que tous les streamers de Guitar Hero ont, parce que c'est une version qui a été complètement craquée, modée. Il y a des centaines et des centaines, voire même des milliers de chansons, des chansons créées par les utilisateurs, par la communauté, qui sont partagées. Et il y a des monstres qui stream pratiquement tous les jours, des grands piliers de la communauté, quoi. Et c'est vraiment quelque chose qui est communauté qui est très très conviviale. Et comme à la base c'est un jeu de détente, même s'il y a du tryhard et il y a des gens qui tryhardent dessus, c'est quand même un jeu de détente. C'est les viewers, ils viennent pour regarder un streamer, ils viennent pour écouter de la musique, la plupart du temps de la musique qu'ils aiment bien. Et voilà des anecdotes de vie, de l'interaction, et puis voilà, c'est super vivant, quoi.
Mais Guitar Hero, tu joues sur quelle machine, sur PS3 ou il y a eu un DLC qui était fait sur PC?
En fait, je crois qu'à partir du troisième opus, il y avait une version PC qui était en parallèle de la version qui était, je crois, PS2 et PS3 et certainement aussi Xbox 360. Et au final, c'est la version PC qui est restée, parce que c'était celle qui était qui a été craquée par la communauté. Et après, bon, il y en a eu d'autres. Hein. Moi, j'ai joué sur sur PS3 quand j'ai démarré. Et au final, bah, j'ai pratiquement fait que ça. J'étais absolument pas au courant qu'il y avait toute cette communauté de modding sur PC. Donc j'avais joué que à ça pendant des années et des années. Après, j'étais passé sur un dérivé fanbase qui s'appelait Fofix, qui était comble du hasard, qui était développé par un gros hacker de la communauté Pokémon aussi. Quand j'ai appris ça, j'étais sur le cul. Et après, j'ai découvert Guitar Hero sur PC et puis là, la révolution. Et franchement, on y passe beaucoup plus de temps sans se lasser parce que voilà, il y a pas de barrière, quoi. C'est infini.
Et je t'avoue que tu viens de m'ouvrir un nouveau monde parce que je connaissais pas la version sur PC hyper développée. J'étais resté sur PS3. Moi, j'ai commencé PS2, j'ai fait l'évolution de Pro. Et là, je t'avoue que tu viens de m'ouvrir un nouveau monde.
Bah, tant mieux.
Et est-ce qu'il y a des espèces de championnats, d'événements très centrés sur Guitar Hero, comme on peut voir sur des championnats de Street Fighter ou sur autre chose, quoi? Ou c'est uniquement du convivial, en fait?
Je pense pas qu'il y ait vraiment de tournoi. Enfin, je sais que pendant quelques années, notamment quand GH3 était sorti, il y a eu pas mal de tournois qui ont été organisés et vraiment des gros événements. Maintenant, c'est plutôt, on profite d'une, soit on profite d'une, comment, pas d'un tournoi, mais d'une convention qui est organisée. En général, c'est des choses qui se passent aux États-Unis. Je sais qu'il y en a un qui se passe au moins une fois par an, qui se déroule à Las Vegas, où il y a pas mal de joueurs de Guitar Hero qui viennent et qui essaient de battre des records de score ou de longévité sur des musiques ultra longues ou des albums entiers ou des discographies entières, et ils jouent non-stop pendant des heures et des choses comme ça. Après, sinon, il y a des meet-ups individuels. Enfin, des meet-ups, c'est des rassemblements. En général, c'est par exemple deux gros, pas forcément streamers, mais deux gros joueurs de Guitar Hero avec des techniques monstrueuses qui habitent pas loin l'un de l'autre géographiquement, et du coup ils font des streams en duo. Mais sinon, de manière, on va dire, officielle, à part tout ce qui se déroule sur GH Live récemment, c'est plutôt quelque chose qui est organisé autour des marathons IRL et des rassemblements entre potes, quoi.
D'accord. Est-ce que, en revenant un peu plus sur le speedrun, est-ce que tu penses que ton expérience Guitar Hero t'a aidé dans tes performances, que ça soit sur Pokémon ou sur Beyond an Evil que tu parlais tout à l'heure?
Franchement, je pense pas. Après, c'est, disons que comme ce sont des mécaniques qui sont assez différentes, il y a toujours ce système de réflexe. Parce que voilà, c'est au final, c'est de l'exécution qui est en jeu. Dans Pokémon, c'est pas trop ça qui est le point d'or, on va dire. C'est plutôt c'est essayer de s'adapter aux éléments aléatoires qui se produisent. Mais j'irai pas jusque là, en final. Je pense pas que ça m'ait trop aidé.
D'accord. Donc en fait, au final, c'est tellement différent qu'au final, il y a tellement peu de points communs que c'est pas trop d'utilité, en fait.
Ouais, je pense aussi. Après, ça dépend comment on voit Guitar Hero, parce que il y a des gens, voilà, c'est vraiment des tryharders, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre sur une musique, il y a une section qui les ennuie, et donc pendant des heures et des heures et des heures, ils vont essayer de décortiquer la section, de la faire ralenti et choses comme ça. Et ça, arrivé à ce niveau-là, ça peut être des choses qu'on voit sur le speedrun, où on va prendre des sections où il peut y avoir de l'exécution qui est assez difficile. Et du coup, on va practice une section pendant plusieurs minutes ou plusieurs dizaines de minutes ou des fois même plusieurs heures sur plusieurs jours. Sur ce point-là, ouais, ça peut se comparer, mais sinon, je n'irai pas jusque-là.
Et justement, sur Guitar Hero, t'es plus en mode, je fais cette chanson-là, puis cette chanson-là, puis cette chanson-là, ou t'es en mode, je vais faire que celle-là jusqu'à que j'ai un tout pourcentage, ou je sais pas quoi, parce que je connais pas trop le scoring dans Guitar Hero, donc je sais pas comment ça se passe.
Ouais, ça dépend. Il y a des musiques qui sont des musiques de cœur que j'ai découvert en regardant certaines vidéos des mecs qui ont un niveau qui est bien au-dessus de moi. Mais il y a certaines musiques qui sont, on va dire, qui sont difficiles, genre même des fois très difficiles, mais qui sont tellement agréables à écouter et des fois même à jouer, que ça m'arrive des fois de passer une après-midi entière sur une musique, mais il y a des fois où par exemple j'ai fait des tentatives de speedrun ou quelque chose, par exemple ça s'est mal passé, j'ai pas le temps de finir, j'ai pas le temps de recommencer un run parce que je sais que après j'ai des impératifs qui sont un peu plus tard. Bah, je me dis bah voilà, je vais lancer un stream GH et puis je vais faire plusieurs musiques et puis s'il y a du monde qui vient, ça va être cool, on va parler un petit peu, et puis s'il y a pas grand monde qui vient, bah c'est pas grave, je me serai détendu. Ça dépend vraiment de mon état d'esprit.
Et donc, par rapport à ton entraînement, on va dire plus axé speedrun, est-ce que tu as une routine ou c'est un peu brouillon, on va dire?
ça serait plus organisé si j'avais pas ma vie professionnelle qui était à côté, parce que pour dire vrai, pour l'instant c'est ma vie professionnelle qui est au centre, on va dire, parce que voilà, c'est ce qui me permet d'avoir une stabilité financière et tout ça. Donc le speedrun je le fais voilà quand j'ai du temps libre. Bon, j'ai pas mal de temps libre donc ça va, mais sinon après ça dépend de quel jeu je fais, ça dépend quel niveau d'exécution j'ai besoin de travailler. Il y a des jeux qui ont absolument pas besoin d'exécution, enfin pour ceux qui connaissent la génération 2 de Pokémon, il y a très peu d'exécution mise en cause, c'est surtout voilà appliquer entre guillemets bêtement certains patterns, certaines stratégies, voilà. Mais après il y a des speed games qui sont beaucoup plus durs. Voilà, même la Gen 3 de Pokémon, elle, tout de suite, quand je m'y suis mis, il y a pas mal de temps que j'ai arrêté déjà, mais quand je m'y étais mis, il y avait des sections qui étaient vraiment, vraiment dures à travailler, et je le faisais quotidiennement, quoi. Il fallait, parce que sinon, soit on perdait son niveau ou ses réflexes, ou alors bah, on stagnait, et au final, voilà, on n'était pas satisfait de ce qu'on arrivait de ce qu'on produisait, quoi. C'est plus énervant de se vautrer en live quand on est regardé par des gens pour un truc qui est basé sur de l'exécution que sur un truc qui est basé sur du random, parce que le random on le contrôle pas, c'est des choses qui arrivent, mais quand on fait des grosses erreurs d'exécution, on s'en mord les doigts, surtout quand on a des fois des bons runs. Et donc ouais, quand il y a beaucoup d'exécution, on est obligé d'avoir au moins quelque chose de journalier, parce que sinon on perd tout l'avancement qu'on a fait sur certaines sections, quoi.
Ouais, j'avoue qu'en même temps je suis plus un mythe, hein, parce que tu parles de qualité, d'avoir un travail, mais un streamer normalement pas besoin, quoi, mais
si seulement. Mais après c'est ça, c'est qu'il y a toujours dans chaque communauté ou dans sur Twitch, on voit toujours des gros streamers, on voit la front page avec des gens qui reçoivent des centaines d'euros par jour. Ça c'est une très faible minorité, et puis ce sont des gens qui ont eux aussi une routine de vie, mais en fait le stream c'est devenu un travail à part entière, enfin, l'organisation en tout cas qu'ils ont, c'est devenu un travail à part entière. Ils ont des horaires qui sont assez fixés, ils ont y a qu'à voir, moi ce que je suivais pendant pas mal de temps c'était les youtubeurs. Et je sais qu'il y a une très bonne vidéo qui est sortie. Bon, je vais pas faire de pub parce qu'il y en a assez, mais pour Hypierre, qui a fait une vidéo qui s'appelait Une journée sur YouTube ou quelque chose comme ça. Et on voyait comme quoi un streamer, bah au final, un streamer youtubeur, c'est ultra, on va dire millimétré, parce que faut sortir du contenu, faut sortir du bon contenu. Et donc tout ça, faut avoir du temps, de l'organisation, c'est tout un travail, quoi. Et donc non, la majorité, on va dire, je pense que 99% des streamers sur Twitch ou des youtubeurs sur YouTube ou sur d'autres plateformes, ils font ça de leur passion et ils ont pas ou très peu de revenus de ce qu'ils font.
Non, c'est ça. Malheureusement, mon compte, c'est que certains ont vraiment l'ambition de devenir youtubeur, mais ou devenir streamer, mais c'est un travail à part entière, et en même temps, comme tu disais, c'est. C'est comme là aussi en tant qu'acteur ou dans des métiers entre guillemets, parce que je mettrais quand même ça comme un métier de spectacle où il faut attirer un public, c'est ça que j'entends, ça. C'est quand même très 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 difficile, et il y a quand même une vraie vie. Mais c'est très très dur à publier, quoi. Mais par contre, comment le speedrun, comment tu es tombé à la barre, comment tu es tombé sur à pousser à vouloir devenir speedrunner.
Alors je crois que je vais dire quelque chose qui est ultra cliché, du moins pour la communauté Pokémon. Moi c'est Verster qui m'a donné envie, et je crois qu'il y a beaucoup de monde qui sont tombés dans la marmite grâce au run de Verster, qui est un Australien qui est là depuis les débuts du speedrun, on va dire récent, sur Pokémon. Et c'est quelqu'un qui au moment où il faisait ses runs, c'était il y a quelques années déjà. Moi j'étais tombé par hasard, je sais plus comment, sur une vidéo de lui sur YouTube qui faisait un speedrun de Pokémon Bleu avec Tortank, et je voyais voilà Pokémon Bleu finir en 1h54 et j'étais là, waouh, mais comment il fait? Enfin, j'étais un peu comme tout le monde quoi. Je me dis, moi quand j'étais jeune, je mettais des heures, si ce n'est, enfin je mettais des journées, des semaines pour finir le jeu quoi. Et je me dis, tiens, comment c'est possible que voilà, il y a une personne qui arrive à faire ça. Et donc au début, ce que j'ai fait, c'est que je regardais sa vidéo, je prenais des notes sur ce qu'il faisait, et je disais, bah, je vais essayer de le refaire. Et donc je crois que j'ai dû passer pendant un mois, deux mois, j'avais juste fait ça en surface, on va dire. J'étais arrivé à 2h10 ou 2h15, enfin un truc qui était assez mauvais. Et au final, après j'ai commencé à prendre contact sur internet pour voir bah voilà comment ça se fait que voilà lui il y arrive, qu'on voit pas trop de monde à côté et tout, et là j'ai découvert que en fait en dessous il y avait un vivier, il y avait des dizaines, des centaines de personnes qui en fait formaient une communauté et qui étaient là. Il y avait des gens qui bidouillaient le code pour voilà essayer de casser le jeu, ou d'autres gens qui essayaient d'exploiter toutes les mécaniques possibles pour sans casser le jeu aller le plus vite possible. Et c'est comme ça que je suis tombé dedans quoi. C'est bon, d'abord grâce à Verster, et puis au final après grâce à toute la communauté qu'il y avait, et puis comme c'était des jeux de cœur, bah je me suis dit bah j'ai envie de faire pareil quoi.
Bon, je pense qu'on a déjà attaqué, donc j'ai envie de dire on est parti pour la partie speedrun pur et dur, on va dire ça.
Ah non, moi j'avais une dernière question.
Ah, t'avais une dernière question.
Pourquoi Pokémon? C'est stupide. Je sais, tout le monde doit connaître la réponse, mais pourquoi avoir choisi Pokémon?
Ah, c'est vraiment un jeu de cœur. Quand j'étais plus jeune, j'avais commencé avec Pokémon Jaune. Enfin, la toute première version Pokémon que j'avais terminée, c'était Pokémon Jaune, avec cette frustration du Pikachu qui n'arrive pas à passer la première arène. Enfin, tu vois, ceux qui y ont joué, à mon avis, ils connaissent le problème. Mais ouais, j'ai commencé avec ça. Après, pendant plusieurs années, j'ai bien dosé la génération 2. J'ai un peu survolé la génération 3. J'ai bien joué à la génération 4 aussi. Et au final, ouais, c'est quelque chose que c'est un univers dans lequel j'ai baigné quand j'étais jeune. J'avais des potes qui y jouaient. Je me souviens même que quand j'étais plus jeune, je faisais entre guillemets du speedrun avec des potes. Il y a même pas si longtemps que ça. Il y a peut-être 4 ou 5 ans. On était encore un groupe de potes et on s'était dit voilà, ce qu'on fait, c'est on va se faire un tournoi, mais un tournoi en temps limité. Genre, on prend une version qu'on a tous et on se donne une limite de 40 heures, et au bout de 40 heures on se fait un tournoi on va dire en PVP quoi, en 1 contre 1 un petit peu voilà quoi, demi-finale, finale, etc. Et à ce moment-là bah en fait on était tous des potes, on n'était pas vraiment speedrunner parce qu'à l'époque on n'était pas vraiment conscient que ça existait, mais déjà à ce moment-là on était voilà, on a 40 heures, faut aller le plus vite possible pour entraîner ses Pokémon le plus rapidement possible, et je pense que tout ça l'un dans l'autre ça a fait que bah je suis en train de faire du speedrun sur Twitch en ce moment quoi.
D'accord. Ouais, une voie normale et classique quoi.
Et ouais. Donc, on est parti pour la deuxième partie. Désolé, je pense que ça, tu l'as dû l'entendre un nombre incalculable de fois.
Ok, oui.
Et donc, ouais, donc, on va dire que ce qui m'intéresse un peu personnellement, parce que c'était aussi un jeu du cœur, c'était la première génération de Pokémon. Mmh. Donc, avec les 150, Pokémon sortis sur Game Boy à l'origine, et qui a donné par la suite toutes les suites qu'on connaît. Moi personnellement, j'ai commencé avec la version bleue. Une sorte de mémoire, le plus rapide que j'ai fait, ça a été le finir en 10 heures. Ouais, j'ai mis un petit défi, aller finir le plus vite possible, et en 10 heures c'était fait. Et puis, mais vous êtes plutôt en mode speedrun sur version rouge, il me semble, en général.
Ouais.
C'est le plus utilisé. Et vous arrivez sur des temps d'environ, il me semble, 2 heures, c'est ça?
Ouais, on est passé, enfin, le sub 2 heures est arrivé en 2008 ou 2009. Enfin, avant, à la base, c'était la communauté japonaise qui travaillait beaucoup là-dessus. Et ouais, maintenant, le record du monde est en dessous des 1h50. Ça a été une grosse avancée, entre guillemets. Et tout le reste de la communauté est au-delà d'une heure 51. Donc, il y a un gros gap entre le premier et le deuxième. Mais ouais, c'est quand même assez monstrueux ce qu'on arrive à faire maintenant.
Et d'ailleurs, ce qui est monstrueux aussi, il me semble, c'est le nombre de speedrunners qui est dessus. Parce que de ce que je connais, en tout cas moi personnellement, c'est il y a des grosses communautés de speedrun. Pokémon, il y a plus d'une centaine de runners qui sont dessus, voire 200, il me semble. C'est comparable du Super Mario 64, où là également il y a des tonnes de runners qui sont dessus, quoi. Donc c'est un truc un peu,
ouais, c'est
un truc abusé, quoi. C'est limite tu gagnes 5 secondes, il me semble, c'est bon, hop, tu gagnes 10 places, quoi. C'est un peu what the fuck, quoi.
Ouais, après c'est vrai que, enfin, je pense que c'est encore plus vrai sur des catégories de Super Mario, parce que c'est que de l'exécution, entre guillemets. À Pokémon, il y a toujours cette partie d'aléatoire qui fait que même avec un niveau d'exécution qui est au-dessus de la moyenne, bah, il suffit qu'on n'ait pas la bonne RNG, le bon random au bon moment quand on est au top de son exécution. Au final, ça peut porter préjudice. Mais au final, en ce qui concerne ouais, le leaderboard Pokémon, ouais, je sais plus combien il y a de runners, mais je crois que c'est au-delà de 300. Là, je crois 300 ou 400 runners sur le leaderboard officiel, enfin sur speedrun.com. Et après, dans la communauté, il y a qu'à regarder sur Speedruns Live, qui est le site officiel où les courses sont organisées. Je crois qu'on est passé à plus de 800 personnes dans la communauté sur le Discord ou sur Speedrun Live. Donc c'est assez monstrueux, sans compter la communauté japonaise qui, elle, est un petit peu à part. Mais ouais, il y a vraiment beaucoup de monde. Et puis l'avantage, c'est que comme c'est un jeu qui est relativement vieux, il y a beaucoup de documentation. Il y a tout le monde, toujours des gens qui sont là qui sont prêts à aider les nouveaux. Donc c'est une communauté qui n'arrête pas et qui n'arrête pas de grandir.
Et justement, cette aide de communauté, est-ce que tu penses que ça... parce que quand je vois sur d'autres communautés où finalement on est assez peu et finalement on se connaît tous un peu bien, etc., etc., que vu qu'il y a tellement de monde, est-ce que ça... justement, on est un peu un chiffre parmi la quantité, donc finalement, t'as pas trop de lien qui se crée. Ou au contraire, justement, il va y avoir des petits groupes par-ci par-là qui vont se créer, quoi.
Ouais, c'est clair que plus il y a de monde et plus c'est difficile d'être en lien avec tout le monde, quoi. Après, il y a toujours des têtes qui sont au-dessus. Il y a, on va dire, un noyau dur que plus ou moins tout le monde connaît. Eux ne nous connaissent pas forcément. Après, ça dépend depuis quand on est dans la communauté, si on les connaît en vrai, si on a le temps de sympathiser avec eux pour diverses raisons. Après, oui, il y a des, on va dire, des sous-groupes qui se créent. Il y a des groupes, presque pas forcément de beaucoup de personnes, mais il y a toujours des sous-groupes, des gens qui ont plus d'affinité avec d'autres. Mais après, voilà, de manière générale, tout le monde est assez gentil, on va dire, parce que ça fait un peu neuneux, mais ouais, on va dire ça. On va dire que tout le monde est un petit peu gentil les uns avec les autres, quoi. Et c'est surtout ça, voilà, c'est de l'entraide, et c'est de l'entraide parce qu'au final, ça se trouve, une personne qui est nouvelle qui va arriver là, bah, elle va faire que en lui expliquant bien les choses et tout, bah, elle va devenir un nouveau top runner ou quelqu'un qui va essayer de casser encore plus le jeu tel qu'on le connaît, quoi. Donc au final, ouais, c'est vachement convivial, beaucoup d'entraide, quoi, même si voilà, ça fait un petit peu impersonnel le fait qu'il y ait beaucoup de monde.
Et par contre, sur la communauté francophone, la communauté est aussi très très importante. Parce que là, tu parles de 800 personnes, je pense que ça compte prend la communauté mondiale. Et en francophone, c'est aussi fort.
Non, je pense pas. Il y a une grosse majorité de personnes anglophones. Enfin, je veux dire, surtout États-Unis. États-Unis, il y a énormément de monde. Après, voilà. Après, il y a des électrons libres. Il y en a quelques-uns qui viennent d'Australie, quelques-uns qui sont du Japon, mais qui se reconnaissent pas trop dans la communauté japonaise, donc ils viennent plutôt sur dans la communauté, on va dire US, comme on pourrait l'appeler. Après, en communauté francophone, c'est assez calme, on va dire. C'est un petit peu dommage, quoi. Mais ouais. Après, il y a des gens qui se concentrent sur le YouTube gaming, et il y en a qui font du semi-speedrun, semi-casual. Ouais, c'est vrai que de ce point de vue, les liens entre la communauté francophone n'allaient pas aussi fortes que ça existe entre d'autres personnes qui viennent d'un même pays. Surtout les Anglais, eux, c'est incroyable, quoi. Ils sont peut-être pratiquement 200 ou 300 dans la communauté, mais voilà, ils s'entendent tous bien, ils se connaissent tous, c'est juste ouf. Et nous, les petits Français, ben voilà, c'est pas encore ça.
Et donc, pour le speedrun en lui-même de la première génération, il y a plusieurs catégories. Donc, bon, il y a les 9% classiques. Mais il y a un truc qui me surprend un peu, c'est une catégorie où tu les attrapes tous, en fait. Sauf que, de ce que je connais, normalement, dans Pokémon, tu as une version où tu en as certains, une autre version où tu en as d'autres, et puis il faut faire des échanges, etc. quoi. Donc, la question basique que je vais te poser, c'est comment, avec un seul jeu, tu peux tous les avoir.
ouais, c'est une catégorie qui est assez marrante. Et puis, comme voilà, c'est une catégorie qui est très très glitchée, où on casse le jeu, mais vraiment d'une façon telle que il existe des catégories de cassage, enfin des niveaux de cassage du jeu. Et on s'autorise certaines choses ou pas certaines choses. C'est un problème qui est apparu, je crois qu'il y a un an à peu près, dans la communauté, où il y a, on va dire, le casseur officiel de Pokémon qui est arrivé, qui a dit voilà, moi je vous ponds ça, et puis on économise une heure sur tous les runs qu'on connaissait. Et donc les gens, il y a quelques-uns qui ont fait cette catégorie. Voilà, ça se finissait en 45 minutes, c'était cool, mais au final on faisait la même chose pendant 45 minutes, mais c'était de l'application pure et dure, c'était que de l'exécution, c'était moche à regarder, il y avait rien de spécial. Et donc les gens, quand ils ont vu ça, ils se sont dit on va limiter les glitches qu'on peut utiliser. On peut casser le niveau qu'à un certain, enfin, le jeu qu'à un certain niveau. Et voilà, après vous vous dépatouillez comme vous voulez, mais vous n'avez pas le droit de toucher à tel glitch. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on peut tous les capturer? C'est parce que à la base, dans la version Pokémon, on va dire qu'il y a tout le jeu qui est codé. Et après, les développeurs, ils ont dit tel Pokémon, on va le mettre dans tel endroit, tel autre endroit et tout. Mais fondamentalement, si on va directement regarder dans le code, on a accès à ces Pokémon, quoi. Et au final, ce qu'on fait avec les glitches, c'est que on va capturer certains Pokémon de la façon normale, comme tout le monde le ferait, enfin, entre guillemets. C'est-à-dire, on va le voir dans les hautes herbes, on le capture, et puis voilà, on l'a capturé. Mais après, il y a d'autres techniques avancées qui, comme on a cassé le jeu, on peut modifier certaines valeurs à l'intérieur du jeu, qui font que on a par exemple un Rattata qui apparaît à l'écran, mais on a tout bidouillé en interne pour que quand on va le capturer, au lieu d'être un Rattata, ça va être un Dracolos ou un Pokémon chiant à avoir de base. Et au final, c'est majoritairement c'est ça, c'est ce qu'on fait, en fait. C'est, on fait croire au jeu que le Pokémon qu'on a en face de nous, c'est pas celui que le jeu veut qu'on voit, mais c'est celui que nous on veut capturer.
Ok, donc c'est du glitch de programmation, on va dire ça, pour résumer.
C'est ça, ouais. La version 1, enfin la génération 1 est cassée d'une façon telle que c'est très 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 facile d'abuser du jeu, et c'est relativement rapide en plus.
Et juste par curiosité, le glitch dont tu parlais tout à l'heure, qui permet de finir le jeu en 45 minutes, c'est quoi en fait?
Alors je connais pas exactement comment ça fonctionne et tout.
Dans les grandes lignes, ça suffira.
Alors si je me souviens bien, en fait, toute la première partie du jeu, ça revient tout le temps à la même chose, c'est-à-dire on commence avec Bulbizarre, parce que pour que le glitch fonctionne, il faut qu'il ait, faut que le Pokémon qu'on choisisse ait un certain niveau, une certaine attaque et des certaines stats. Donc ça, en fait, c'est un guide qui permet de skipper la première arène. Au passage, on marche à travers les murs. Voilà, ça nous aide à aller plus vite, quoi, dans, là où on veut aller. Et après, c'est un setup absolument horrible à partir de la boîte du PC. Ce qu'on fait, en fait, c'est que les programmeurs du jeu, ils ont mis tout ce qui était utile. Tout ce qui était utile, c'est-à-dire l'argent, les... comment dire, ouais, l'argent, les noms des dresseurs, enfin pas le nom des dresseurs mais le nom du rival, notre numéro d'ID dresseur, ils ont mis ça juste en dessous de l'inventaire, ce qui fait qu'en fait le premier glitch qui permet de setup tout ça, c'est de faire croire au jeu que on peut aller dans les slots qui sont au-delà de notre inventaire. Et c'est des slots qui sont où il y a tout, il y a absolument tout dedans. C'est des slots qui nous permettent, enfin des slots, c'est en gros un item de l'inventaire, et en fait pour chaque valeur qui est codée à l'intérieur, chaque valeur, ça va avoir un impact spécial sur le jeu. Et comme ce sont des valeurs 1, 2, 3, 4, 5, des valeurs comme ça qui sont stockées, le jeu, lui, il va essayer d'interpréter ça en termes d'objets, parce qu'on est dans l'inventaire. Et donc au final, ce qu'on fait, c'est des manipulations d'objets, comme si on bougeait des objets à droite à gauche dans notre inventaire. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est on modifie certaines valeurs qui vont changer le comportement du jeu. Et après avoir accès à cette partie-là entre guillemets de l'inventaire que les développeurs ne veulent pas qu'on ait accès, après on fait un setup absolument dégueulasse on va dans le PC, on trifouille des adresses mémoire à droite à gauche, il y a plein de points d'exclamation partout, limite on s'y perd. Et puis après au final on va voir un PNJ, on bidouille l'inventaire, on capture un Pokémon et ensuite on change une valeur. On reparle au mec, on capture un Pokémon, on rechange la valeur, etc., etc. Et on fait ça pour les 150 Pokémon. Donc c'est assez moche à voir parce qu'au final l'écran est cassé de partout et on voit pas un seul Pokémon. On voit juste le petit message en bas qui dit vous avez capturé tel Pokémon, mais on voit rien, on voit absolument rien. Et les gens ont trouvé ça très mauvais à streamer. Et donc ils se sont dit bah voilà, on est content, on sait le faire en 45 minutes, on sait finir le jeu, mais maintenant ça serait bien de faire une catégorie qui soit on va dire sympa à regarder. Et donc c'est pour ça qu'ils ont fait comme j'ai dit des limitations sur les glitches qu'on peut utiliser.
Excuse-moi, mais en l'occurrence je sais qu'il y a un glitch qui était hyper connu dans Pokémon, qui est surtout la première génération, qui était le Missing No, c'est ça?
Ouais.
Et justement, ce dont tu parlais, c'était une surexploitation de ce Missing No, ou c'était Missing No, ou c'était totalement différent?
Ouais, exactement, en fait. Les gens se sont rendus compte que quand on rencontrait un Missing No, en fait, pour expliquer vite fait ce que c'est qu'un Missing No, en fait, c'est que comme on est sur une console qui est en 8 bits, je vais essayer d'abréger, hein. Comme on est sur une console qui est en 8 bits, quand on regarde l'écriture binaire d'un nombre, on peut aller de 0 à 255. Donc au final, quand on donnait un nombre à un Pokémon, on avait le choix entre n'importe quel nombre de 0 à 255. Sauf que dans la première génération, il n'y en a que 151. Donc ça veut dire qu'il y a 151 slots, enfin 151 nombres qui vont correspondre à un Pokémon qui existe vraiment. Et si je fais les maths correctement, 104 autres, eux correspondent à des slots qui n'existent pas. Et en fait les développeurs ont appelé ça numéro manquant, ce qui se traduit en anglais par missing number, qu'on abrège en missing no. Et au final les gens se sont rendus compte que quand on rencontrait un missing no en Pokémon sauvage, il y avait une certaine quantité de l'inventaire qui était ajoutée à un objet. Et en fait, à partir de là, on peut faire croire au jeu qu'on a 256 objets. Alors que, comme je l'ai dit, comme c'est une console 8 bits, on est limité qu'à 255. Et en fait, tout le truc est là, quoi. C'est grâce à Missing No, on peut avoir 256 objets d'un item. Et c'est ce qui nous permet de complètement casser l'inventaire. Et ça, c'est ce qui est la base de pratiquement toutes les catégories glitchées. Désolé, c'était un peu compliqué, mais vous voyez les détails, je donne les détails.
Ah, il n'y a pas de souci.
c'est parfait.
Même si je pense qu'on a perdu tous ceux qui ont allergique aux maths, à la programmation et ce genre de choses.
Et pourtant, pour toutes les, combien, les personnes qui s'intéressent un petit peu à Pokémon de la première génération, c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'hyper connu, quoi, le Metin Go. Je pense que même toi, Aldraj, t'as commencé aux premières générations, pas, non?
Ah ouais, oui,
j'ai commencé avec Jaune, ouais. Ouais.
Donc tu devais connaître le Metin Go quand même.
Je l'avais jamais rencontré moi-même parce que j'étais pas trop fan des glitchs à l'époque, mais ouais, c'est quelque chose que j'avais vu un peu plus tard avec des vidéos sur internet et tout ça.
D'accord. Ouais, mais moi j'étais absolument pas genre de Pokémon à l'époque. J'étais trop âgé, c'était le jeu pour les enfants. Oui, je sais que c'est horrible à dire, mais c'est vrai.
Ah,
que,
pourtant, c'est quand si on pense à ce qui a été dit dans un autre podcast, je sais pas si tu sais. Le retour vers le turfu, il me semble d'ailleurs, et qu'apparemment Pokémon à la base dans les au Japon était fait plus, c'est un jeu pour adultes au final plus, et sauf que ici la vision commerciale était plus visée plus le jeune public.
Exactement.
C'était la petite parenthèse.
mais c'est vrai, historiquement, ouais, le marketing nous saluait les enfants. Et c'est vrai que même moi à l'époque qui était gamer, j'étais trop âgé, entre guillemets, hein, mais on voyait les enfants jouer à Pokémon Go et je le regrette, quoi, parce que je sais que c'est quelque chose que j'aurais dû faire. Mais je n'y ai jamais penché dans Pokémon. Par contre, je me suis intéressé. C'est pour ça que le Metin Go, je connaissais, quoi. Mais. Peut-être un jour.
Et donc, par contre, il y a quand même des glitches un peu. Enfin non, il y a un truc. Un truc que vous utilisez maintenant dans la speedrun classique, c'est la manipulation de RNG en fait.
Exact.
Chose qui en fait rend un peu le jeu, on va dire, un peu plus. On va dire ça exactement, ouais, parce que
notamment plus agréable à regarder, c'est ça, non?
Pas forcément, j'ai envie de dire.
Après, ouais, c'est. Après, ça dépend. Enfin, il y a des gens qui disent, ouais, depuis que vous avez la manipulation de l'aléatoire, il y a moins de moments qui avant était, on va dire, dangereux pour le runner, et il devait prendre des décisions qui étaient est-ce que je veux gagner du temps, est-ce que je prends un risque ou est-ce que je la joue safe, et on verra plus tard si j'ai un petit peu une meilleure RNG sur d'autres trucs. C'est quelque chose qu'il y avait avant parce que voilà, on avait un Nidoran, il avait des statistiques qui étaient absolument aléatoires, et donc il fallait qu'on fasse le shopping, le speedrun de manière générale dans un ordre qui était totalement dédié à au stade que l'on avait, quoi. Et donc comme ces stats on les découvrait qu'au fur et à mesure du run, on devait s'adapter entre guillemets, alors que maintenant on manipule toujours le même, enfin après ça dépend, c'est on manipule toujours le même Nidoran dans la version rouge et bleue, dans la version jaune il y a une petite variante, mais bon au final ça reste quand même pratiquement toujours le même, et donc au final on a une strat qui est ultra optimisée pour les Nidorans qu'on arrive à manipuler, et les gens se plaignent un petit peu de ça, c'est qu'au final il reste plus que de l'exécution et les 2-3 moments risqués qui sont tout le temps là et qu'on pourra jamais se débarrasser, quoi. Et donc il y a certains, en tout cas pour les runners, on va dire que ouf, heureusement qu'on a ça maintenant, parce que c'est vrai que grinder des mois entiers pour avoir un Nido qui a des bonnes stats et puis il va mourir sur un truc à la con. Là maintenant, voilà, chaque run, on sait qu'on a une bête de compète et puis on peut prendre tous les risques qu'on veut, on s'en fout parce que on reset et 6 minutes plus tard, on a exactement la même bête de combat. Donc nous en tout cas pour les viewers, c'est peut-être un petit peu moins fun à regarder, mais pour nous les speedrunners c'est beaucoup mieux, on peut pousser les temps beaucoup plus bas.
Ouais, je me souviens, j'avais testé un peu le speedrun de Pokémon Rouge à une époque avant la manipulation de la RNG, et on m'avait donné tout un truc avec si vous voulez surveiller les stats d'une Doran à tel niveau, alors s'il n'est pas tel niveau, à tel niveau s'il avait ces stats là, il fallait acheter ça, sinon il fallait acheter ça, enfin ce genre de truc, et donc ça donnait un casse-tête sans nom, quoi. Donc, Ou du moins au début.
C'est vrai que ça, ouais, c'était. Bah, au final, pour chaque Nidoran, il y avait une route pratiquement qui lui était associée, quoi. Mais c'était un petit peu rebutant pour les nouveaux runners. Pas trop pour les anciens, parce que les anciens, ils y avaient pris l'habitude. Mais pour les nouveaux, ouais, c'était un problème. Et il y a une personne de la communauté qui est arrivée qui s'appelle Daily Leaf. Et lui, il a fait vous me donnez tout ce que vous savez sur Pokémon Rouge, comment adapter la stratégie en fonction de telle ou telle stat. Et lui, il a fait un programme où on a juste à rentrer nos stats au fur et à mesure du run. Et lui, il va nous dire quels sont nos stats, et qu'est-ce que tu dois faire, quel shopping, dans quel ordre. Et ça déjà, quand ça c'est arrivé, ça a donné un bon coup de boost aux nouveaux. Parce qu'au final, il suffisait de cliquer sur 2-3 boutons et puis hop, ça nous donnait la bonne strat à jouer, quoi.
Bah, je suis arrivé un peu après le programme justement de Daily Leaf, en fait. Et moi, j'avoue, personnellement, j'ai eu l'impression d'être en speedrun sous pilotage automatique, on va dire ça, quoi. Donc, du moment.
C'est entre guillemets ça, ouais.
Ouais, où c'était pas moi qui speedrunnais, quoi. C'était quelqu'un qui me disait à côté, ouais, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça, quoi. Donc. Voilà, quoi. Donc même si je suis pas bon dans mon autre speedrun, quoi, d'un côté, moi ce que j'aime, c'est que j'irai mes trucs, et si je me plante, peut-être improviser au dernier moment, peut-être pour survivre ou pas en général, mais bon, c'est pas grave, quoi. D'un côté, garder parce que d'un côté, même la mort à la fin d'un run, au final, après, à cause d'une erreur, même si ça tue, c'est un run sur le cours, on rage comme pas possible, on fait oh, putain de jeu de merde, etc., quoi. C'est enfin c'est quand on y pense, après on y pense avec sourire, et puis on se souvient qu'on avait fait ça, donc ça faut plus le faire, etc., et c'est un bon moyen d'apprentissage au final aussi, quoi. Donc,
mais bon. Ouais, c'est sûr.
Donc ouais, tu es passé d'un jeu où un aléatoire, mais il y avait aussi qu'on ait une part d'adaptabilité que devait avoir le speedrunner, on est passé à un speedrun d'exécution. Je juge pas, hein, les deux peuvent être intéressants. Et toi, à partir de ce moment-là, c'est là où ça t'a le plus intéressé, ou l'aléatoire parfois te manque un peu l'adaptation.
Après, ça dépend vraiment des buts qu'on se fixe. Moi, j'ai toujours le but de toujours faire mieux et mieux et mieux. C'est vrai que d'avoir cette partie d'aléatoire qui est retirée, moi, ça me fait plaisir, ça c'est sûr. Mais après, c'est vrai que, ouais, franchement, je comprends le point de vue des gens qui regardent et qui se disent, ouais, de toute façon, c'est la même chose. Je vais revenir à 2-3 moments de la run où il y a des risques, parce que maintenant on sait que c'est à ces moments-là où il y a des risques, et puis voilà, même les viewers sont entre guillemets en pilotage automatique, parce que voilà, à force ils savent que avec la manipulation il y a pratiquement 90% du run qui est assuré, et puis les 10% qui restent, bah c'est là où les gens ils vont regarder pour voir, ah bah tiens, il est passé, tant mieux, et puis s'il passe pas, ah bah tant pis, dans on va dire 50 minutes il a le même Pokémon, et puis il revient. Mais moi, franchement, ouais. moi, franchement, ça, c'est une bénédiction que des choses comme ça existent.
Je suis totalement de ton avis, parce que avec FF6, c'est exactement la même chose. Quand est arrivé ce qu'on a, parce qu'on avait deux grosses parts de RNG à certains endroits, et on va dire, ça pouvait. Au mieux, tu perdais plein de temps. Au pire, ça tuait ta run. Hein, clairement, tu pouvais avoir un game over dessus, quoi. On a découvert ce qu'on appelle acid manip, et donc depuis, on sait vraiment maintenant. Bon, à ce moment-là, je vais avoir telle rencontre de telle façon, ou presque. Mais ça sécurise tellement la run, parce que c'est un vrai plaisir pour le runner. Puis comme ça aussi, ça enlève un peu un stress du montage. J'espère que je vais pas voir ce genre de truc juste à la fin qui va me foutre la reine en l'air, ou ce genre de choses, quoi. Donc,
c'est exactement ça. Et puis voilà, c'est un gros problème qu'on a aussi avec la génération 2 de Pokémon, parce que c'est une version qui a très peu d'exécution, qui a énormément de RNG à droite à gauche. On a le dieu de la génération 2 qui s'appelle Gunnar Maniac, aussi un gros streamer Pokémon, qui lui a grindé Pokémon Crystal et Pokémon Or. Il a absolument torché tout le monde, et à tel point que maintenant on dit que il est pas rentable, vu les temps qui ont été atteints, il est pas rentable de grinder le jeu tant qu'on n'a pas de RNG manip. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a pratiquement personne qui run le jeu, parce que moi avant, à la base, je suis un streamer de la génération 2. Je crois que je capitalisais pratiquement 4000 resets ou 5000 resets dessus, donc c'est assez gros, sachant que c'est des versions qui sont très longues. Et maintenant tout le monde est d'accord du fait que voilà, tant qu'on n'a pas trouvé un moyen d'infirmer que on peut faire de la RNG manip, tant qu'on n'a pas de réponse claire là-dessus, pour l'instant personne run, parce que c'est plus important de trouver une réponse à la question est-ce qu'on peut faire de la manipulation que de faire les runs en soi.
Et cette RNG manip, genre, tu dis que dans la génération 2 vous savez pas quoi, mais elle existe dans d'autres versions aussi d'ailleurs, ou
ouais elle existe dans pour l'instant on a de la manipulation jusqu'en génération 5.
Génération Game 5 c'est pour ceux qui sont pas trop au courant
c'est noir, blanc, noir 2 et blanc 2.
D'accord.
Donc c'est jusqu'à cette génération là. Donc génération 1, on a une grosse manipulation. Génération 2, on en a une, mais enfin elle concerne pas les stats, elle concerne pas les trucs comme ça. C'est juste pour manipuler son numéro de dresseur. C'est quelque chose qui est utilisé maintenant dans les runs de glitcher en génération 2. Enfin, qui était utilisé maintenant. Monsieur qui casse Pokémon a encore trouvé quelque chose de nouveau, donc on en a plus besoin. Après génération 3, il y a de la manipulation avec des programmes qui ont été créés par la communauté. Des programmes absolument monstrueux. Franchement, je sais pas comment ils ont trouvé ça ou codé ça, mais c'est absolument monstrueux. Génération 4, génération 5 aussi. Alors, génération 3, c'est Ruby, Saphir et Emerald. Donc là, il y a des manipulations, on va dire semi-approximatives. Disons que on vise un résultat, mais on sait qu'il peut y avoir des variances. Donc on est à peu près sûr qu'on va avoir ce que l'on veut en termes de statistiques ou en termes de RNG, mais on n'est jamais à proprement sûr. Génération 4, c'est complètement craqué. Génération 4, on peut pratiquement manipuler la première heure de run. Avec juste le fait d'avoir le bon starter, le bon Pokémon de départ, et se tenir à un mouvement précis. On peut manipuler tout, c'est-à-dire les Pokémon qu'on va éviter ou les Pokémon qu'on va capturer, les niveaux qu'ils ont. Certaines générations peuvent même manipuler le premier tour de combat, c'est-à-dire que si on veut un crit ou si on veut pas de, enfin si on veut un coup critique ou pas de coup critique. Donc c'est absolument cassé. Génération 5, je crois que c'est à peu près la même chose. On peut manipuler son starter, on peut manipuler certains Pokémon qu'on veut capturer, mais je crois que c'est un petit peu moins flexible que la génération 4. Franchement, génération 4, regardez les derniers runs, notamment le record du monde de Verster sur Pokémon Perl. Regardez la première heure de run et vous allez voir, c'est absolument ouf. Je crois que les 50 premières minutes sont manipulées. C'est d'une seule traite, d'un seul segment. Et franchement, c'est assez jouissif, pour utiliser un terme compromettant. Franchement, c'est juste extraordinaire que voilà. Et tout ça, c'est grâce à tous les gens qui sont dans la communauté, qui cherchent à comprendre le fonctionnement interne des jeux. Et puis voilà quoi. On espère que ça va s'étendre à la génération 2. Vu comme c'est parti, c'est mal embouché, mais bon, on y croit encore.
Philippe, c'est mal parti pour la génération 2. C'est quoi, c'est un manque de motivation des gens
Non. En fait, c'est juste la façon avec lesquelles le jeu est codé. Déjà, il y a une assez grosse différence entre la génération, enfin entre rouge-bleu d'une part et jaune d'autre part, parce que jaune a en fait dans rouge et bleu il y a juste un comment dire il y a une cloque interne qui tourne pour savoir à combien d'heures, combien de minutes, combien de secondes, combien de frames on est dans le jeu. Et en fait, on a juste à manipuler un compteur, enfin ce compteur-là en particulier. Et après, on a juste à faire le même mouvement tout le temps, et on est quasiment sûr que on va obtenir le résultat que l'on veut. Ensuite, dans Pokémon Jaune, il y a un deuxième compteur qui a été ajouté. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de manipuler un compteur, maintenant, il faut en prendre en compte deux. C'est pour ça qu'on peut faire que des manipulations de courte durée sur Pokémon Jaune. Pour ceux qui connaissent, manipuler le Mont Sélénite dans Pokémon Jaune, n'y comptez pas, ça arrivera jamais, ça serait trop complexe. Dans la génération 3, il y a un troisième timer qui a été ajouté, et c'est pour ça qu'on est très 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 pessimiste sur le fait qu'on puisse manipuler la génération 3, c'est à cause de ces trois timers, parce qu'il faudrait arriver à manipuler trois timers pendant un temps, on va dire, relativement court, pour que ça nous donne accès à la chose que l'on veut manipuler. Et donc c'est pour l'instant, c'est vu les comment dire, la compréhension qu'on a du fonctionnement qui est entremêlé de ces différents timers, et pour l'instant non. Malheureusement non.
J'aurais dû avoir un jingle Mission Impossible, ça aurait été parfait là.
Ouais, c'est clair. Mais même toi, ça t'intéresserait pas de contraire d'un moment de bouger sur un autre jeu Pokémon.
Pour l'instant, je me suis aventuré sur les quatre premières générations. J'ai fait bleu, j'ai fait rouge, j'ai fait jaune, j'ai fait or et cristal. J'ai fait du émeraude pendant peut-être 3 semaines. Je suis monté sur la deuxième place du leaderboard. J'ai jamais essayé Saphir. Je compte m'y mettre, mais après le problème c'est que moi j'ai pas de console, j'ai pas de setup pour avoir une console. Donc je fais tout sur émulateur, et la génération 3 est très mauvaise. Même la génération 4, c'est des générations qui sont très mauvaises sur émulateur, parce que l'émulateur arrive pas à recréer le comportement fidèle d'une console. Après j'ai aussi touché à la génération 4, j'ai touché à Perle et Diamant. Je suis le seul runner de Diamant, alors que tous les autres run Pearl. Et après Platine, ça a dû être mon deuxième speedrun, mais je connaissais pas la RNG manipulation, donc c'était un run qui était absolument horrible. Mais il faudrait que je me remette à Platine avec toutes les dernières strats qui ont été trouvées. Et j'ai jamais touché la génération 5, ni la génération 6, ni la toute dernière qui vient de sortir. J'ai jamais touché à ces trois générations, parce que je suis pas motivé pour l'instant. Je suis un peu en flemme, mais ouais, je compte un peu passer par toutes les générations, mais en fait ça dépend de mes humeurs. Là récemment, je me suis remis sur Rouge Feu, parce que ça me prenait. Je me dis, tiens, ce serait cool de refaire des runs sur Rouge Feu. Donc en ce moment, je fais du Rouge Feu. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à me défaire des runs que je connais pour faire des nouveaux runs. J'ai dû mettre peut-être 2 mois à apprendre la run de Pokémon Jaune, parce que j'étais pas motivé. Et après, je me suis mis un gros coup de pied au derrière. Et donc, je suis aussi monté sur la deuxième place du leaderboard. Mais ça a mis 2 mois de motivation, quoi.
D'accord.
Et pour l'instant, parmi toutes les rounds que tu as faites, c'est laquelle que tu préfères, on va dire, si tu peux mettre une préférence, parce que...
Pendant un moment, j'adorais René Pokémon Or. C'est vrai que ça reste un gros coup de cœur, malgré le fait que ça soit long et assez lent comme run. J'ai pas beaucoup speedrun Pokémon Jaune, mais ça a été aussi un bon moment. J'ai adoré Pokémon Jaune, je pense bien plus que Pokémon Rouge au final, malgré le fait que j'ai rené Pokémon Rouge pendant des mois et des mois. J'ai dû rené Jaune pendant 2 semaines, mais ouais, j'ai adoré mes 2 semaines de Jaune. Je pense que j'ai aimé la majorité de ce que j'ai fait en génération 2. Au final, je sais pas, j'arriverai pas à dire si. Franchement, c'était bien fandard de faire des speedruns avec Piplouf sur la génération 4, parce que tout le monde disait Piplouf c'est de la merde, et au final j'ai réussi à faire des rolls, on va dire, potables dessus, et c'était drôle aussi, c'était assez drôle, ouais. Donc disons que je mettrais Jaune et Perle à égalité en top 1.
Voilà, merci. Steph Core, t'as d'autres questions ou...
Ouais. Sur le speedrun en lui-même, non. Après, d'autres questions. J'en ai une. Je faisais auparavant une question, je vais la changer un petit peu. Qu'est-ce que tu adores quand tu streams une run? Qu'est-ce que tu adores qui se passe? Quelle est la chose que tu adores voir se passer pendant un stream de run?
Si tout pouvait se passer comme prévu, ce qui n'arrive jamais, ça serait bien. J'attends ce moment encore.
Non, mais là, tu parles de miracle.
Oui, voilà. Sinon, y a toujours des grosses surprises, voire. Alors, il y a forcément le système d'hébergement sur Twitch, une grosse chaîne qui peut tout d'un coup nous hoster. Et d'un coup, on voit un flow de viewers hallucinant qui arrive. Ça, c'est des bons moments parce que voilà, tout d'un coup, il y a un vivier d'émotions qui est là. Et puis, il y a des fois, j'arrive pas à bien réagir ou je réagis.
Et tu as la pression tout d'un coup.
Voilà, et puis d'un coup, on a la pression et puis on foire le run 2 minutes après. Hein. Coucou, Exarion, hier soir.
C'est exactement ça. Je te rejoins tout à fait. Il y a une fois, j'étais en run FF6 No Sketch et il y a Elmagus qui me hoste, quoi. Donc, certains
connaissent. Ouais, et puis la pression.
Sauf que j'étais quoi, 2 minutes avant le premier reverse Joker Doom, pour ceux qui connaissent. Et la difficulté, plus le lag de l'émulateur, plus le host, tout ça a mis bout à bout. j'ai fait un reverse Joker Doom. Mais comme de la façon qui devait bien se passer, comme c'est prévu par le jeu, donc au lieu de buter le boss, j'ai buté mon équipe. Donc c'était génial.
Ouais. Mais bon, franchement, après c'est cool, je trouve. Ou même de revoir des gens, des viewers qu'on n'avait pas vu pendant 6 mois, ou des choses comme ça, ou même des potes IRL qui d'un coup débarroulent sur ton stream et puis on fait ah ouais tiens toi tu fais ça ou blabla, et puis des fois c'est cool, ouais, c'est des moments comme ça, c'est super gratifiant et voilà, et je pense que au final on le fait pour ça, quoi. Alors, moi j'aime bien faire des bons temps. Mais si je fais des bons temps alors que dans mon chat il y a que moi et mon bot de commande, bah voilà quoi, c'est un peu triste.
Ouais, c'est clair. Bah c'est ça, c'est être dans l'attente de ces petits moments de grâce où au-delà du jeu que tu runs, ouais, t'as ces interactions qui rendent le stream ou le speedrun streamé vachement plus sympa. Quoi.
Ouais, c'est clair.
Mais non, moi en l'occurrence j'ai fini là désormais j'ai fini mes expériences. Moi j'ai fini mon travail à là.
Top vacances.
Ouais, bah, donc pas une petite dédicace, je sais pas quoi, vas-y allez. Non.
Oulala.
non. Bon. Non, tant pis. Non, sinon,
si,
ça,
bah,
ça...
La dédicace, je garde celle que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Coucou Exarion pour avoir fait foirer mon run avec mon host.
Non, ce que je suis surtout demandé, c'est où est-ce qu'on peut te retrouver. Donc, ton Twitter, ton Facebook,
Attendez.
Quoi ?
Vous croyez que l'émission va se finir comme ça ? Vous êtes dans la génération Pokémon. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas s'amuser un petit peu et poser quelques petites, entre guillemets, faire un petit coup sur Pokémon.
Oh, yeah, yeah.
T'as des questions, toi, Sefko?
Oui.
Oh, putain, moi, j'ai rien préparé. Faut qu'on réponde, c'est ça? Tout de suite?
Oui, exactement.
Ah, faut que je réponde, moi, c'est ça, et c'est toi qui poses des questions, c'est ça?
Exactement. Donc, comme vous êtes tous les deux dans la génération Pokémon, je me suis dit que vous devez connaître un petit peu le lore et c'est plus des questions entre guillemets de culture générale. Sincèrement, je vous ai pas gâté, hein, parce que je me suis dit on va être un petit peu un poil pointilleux. Et donc je me suis dit, bah là on va faire un simple quiz, hein, je vais poser que quelques petites questions, et ce sera au premier qui répond qui gagnera un point. Et le vainqueur pourra compter le perdant tel qu'il le souhaite, quoi.
Okay.
Donc, première question. Dans l'univers Pokémon, connaissez-vous le nom du tout premier Pokémon?
Rhinophéros.
Non, je te parle dans le lore.
Bulbizarre.
Ah, Bulbizarre, ouais.
Dans le lore de... Dans le...
Pokédex.
Non. Le premier Pokémon qui a été créé dans l'univers Pokémon, dans le qui est sorti du Vortex et Chaos, est sorti le premier Pokémon qui s'appelait Arceus, qui est le Pokémon Alpha.
Mais c'est pas clair tout ça.
Ah mais ouais, t'es brouillon.
Au commencement de l'univers.
D'accord, comme ça on aurait compris, je pense.
Ça, d'accord, ok.
D'accord.
Mais j'aurais pas su répondre, mais bon, voilà.
Non, je parlais bien dans l'univers, dans le lore, dans l'histoire originelle de Pokémon, pas dans l'historique de conception du jeu.
D'accord, moi je l'ai pris comme ça, c'est pour ça.
Ouais, voilà. Non. Dès la première question, je me foire, c'est mieux.
Les aléas du direct.
Ouais, non, exactement. Donc on va faire beaucoup plus simple. Là on va parler justement de la question. Pouvez-vous tout simplement me dire quel est le nom du créateur de Pokémon?
Oh là là. Comment on prononce le japonais?
Wikipédia vient mon aide.
Non.
Tachi Tajiri.
Oui, gagné.
Ouf.
Exactement. Satoshi Tajiri, qui est né le 20 septembre 1975. C'était le créateur et producteur du jeu vidéo japonais. Mais il a une particularité avant d'être connu en tant que créateur et producteur de jeux vidéo japonais.
Je crois savoir.
Avec un groupe d'amis, il créa quelque chose qui est toujours célèbre au Japon. Qu'a-t-il créé avant avec
le Tamagotchi, un truc du genre?
Non. Une chose totalement différente. Qui se rapproche, comment dire, qui est lié au monde du jeu vidéo, mais qui n'est pas un jeu vidéo.
Il n'aurait pas créé une console?
Non. Dites-moi si vous voulez donner votre langue au chat.
Le pire, c'est que pour le marathon de la GDQ, j'avais regardé la vie de ce mec. Je ne me souviens plus, j'en ai... Tu m'en veux. Non, moi je passe.
T'es pire que les questions de Dino.
Et bien en 82, il faut savoir que Tajiri créa avec ses amis le magazine de jeux Game Freak.
Ah, exact.
Et il garda, qu'on est avec ce magazine qui désormais je crois existe toujours, je vous avoue que. Et en finale, lorsqu'il décida de créer Pokémon, selon l'histoire, c'est que quand il vit la première fois les câbles Link, les câbles de connexion qu'on utilise pour les Game Boy, il imagina des insectes qui rampaient le long de ceci. Et en fin de compte, de là, il lui est venu l'idée de Pokémon.
D'accord.
C'est ce qu'on raconte. Hein. Et ensuite, il créa son entreprise Game Freak. Il conserva le nom de Game Freak pour son entreprise.
Et de là sont venues les boules.
Exactement. Et donc là, on va poser la première question. Une question qui normalement devrait être très très rapide comme réponse. Et quel a été le tout premier Pokémon créé? Alors là, ça devrait être rapide.
Pokémon vert et Pokémon rouge.
Non, le premier Pokémon.
Le tout premier Pokémon.
Ouais, dessiné, créé par.
Je pense que.
Exactement. C'était Rhinophéros qui a été le tout premier. C'était Rhinophéros, parce qu'il était très très simple, très très facile à créer, parce qu'il avait deux positions, il pouvait être à quatre pattes et debout, donc le dessinateur a maintenu c'est Ken Sugimori décida de créer le premier fut Rhinophéros. Par contre, je vais pas trop insister, on va faire une petite dernière question. Pouvez-vous me dire quelle différence de temps, combien d'années y a-t-il entre la sortie japonaise de Pokémon et la sortie européenne de Pokémon?
4-5 ans, il me semble, non?
Non.
Je crois qu'il y a eu un écart de 2 ans.
On va couper la part en deux. Il y a eu un écart de 3 ans.
3 ans?
Ouais, il est sorti en 96 au Japon, et en 98 en Australie, et 99 en Europe. Alors c'est vrai que maintenant on se plaint quand il y a une attente d'un an sur un RPG parce que faut relaquiser le jeu. Là on peut dire que quand même il y a eu 3 ans d'attente. Comment dire pour que Pokémon. Donc on devrait relativiser un petit peu nos attentes. Hein.
Mais à l'époque on savait pas que ça sortait, etc., ça. Etc. Il y avait pas le net et tout ça c'est ouais. Ce gros attrait qu'avait la région japonaise qu'elle a maintenant. Donc voilà.
Il y avait qu'un magazine, je crois qu'à l'époque c'était justement Greg merde, pardon,
le millionnaire
qui en avait parlé et justement qui avait fait la remontée sur le jeu Pokémon avant que ça sortait en Europe et c'était impatient que lui il jouait et c'est là où j'ai entendu parler mais les premières fois de Pokémon c'est via lui et où il y a eu son premier retour et derrière ouais, l'arrivée en Europe c'est un énorme succès. Mais c'est vrai que 3 ans d'attente pour voir arriver un jeu qui est on va dire il y a certains RPG japonais qu'on attend toujours de voir apparaître en
c'est,
Europe.
C'est clair.
C'est clair. Mais c'est vrai que là on s'est dit quoi déjà à l'époque les délais étaient assez énormes. Mais voilà, c'était des petites questions, juste histoire d'animer un peu, mais. Je sais pas si je le referai hein, parce que.
Bah, tant que les questions sont bien posées,
j'étais déçu, c'est ça.
Ouais, je m'attendais un petit peu, des connaissances et tout. En même temps, je suis pas mécontent que t'aies pas su répondre. Moi, ça me. Je pourrais comment dire, te tenter sur ce sujet-là plus tard, peut-être.
Et donc, pour finir, où est-ce qu'on peut te trouver?
D'abord sur Twitch _poi tout en lettres qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a sur Twitter avec le tiré du 8 comme on dit en France et, j'aime pas cette expression mais tiré du 8 poi sur Twitter et puis aussi sur YouTube où je poste mes highlights certains temps forts on va dire.
Et bien sûr, tous tes liens seront mis dans les notes de l'émission. Et de notre côté, on va faire une petite pub pour des amis. Speedzemol, ils organisent ce mois-ci 2 gros marathons axés sur les RPG. Le premier est actuellement en train de se terminer. On dit d'ailleurs bon courage Kayoche pour Final Fantasy IX sur ce qui te reste. Et dans 2 semaines, il y a la deuxième partie où on pourra d'ailleurs retrouver notamment un ancien de nos invités PLM qui fera du Final Fantasy VIII sur PlayStation.
Et on pourra retrouver un autre.
Ouais. Il paraît que je vais essayer de faire du Final Fantasy VI en glitchless. On va essayer.
Non, on va réussir. Positif.
Oui, je vais réussir. Ouais. Non, c'est juste derrière moi sur mes entraînements. Le jeu m'a un peu trollé de toute façon en mode non, tu runs pas en ce moment. Donc voilà. Mais sinon, ça va. Et donc, sur ce, je vous souhaite à tous.
T'as pas précisé la date exacte.
Oui. C'est dans 2 semaines. C'est dans 2 semaines. Oui. Sauf que c'est 2 semaines le jour où on enregistre. Vu qu'on enregistre le 15 décembre, ce sera le 28 et 29 décembre.
Donc et pour est-il à peu près prévu que tu fasses ton speedrun? Ouais, je vais te faire ta pub au complet, les gens.
Dimanche matin, Steph Cora vient sera avec moi d'ailleurs pour commenter.
Ah bah dans ce cas-là, ouais, il n'y a pas de soucis. Je serai présent et.
Je t'ai déjà dit ça il y a une semaine. T'as dit que t'étais ok.
Ah moi je suis parfaitement ok. Non, je suis même en train de réviser tous les commentaires sur Final Fantasy, donc je serai parfaitement calé et je te tiendrai éveillé au matin. Une vraie joie quoi. Et je remercie Speedzemol qui font énormément d'efforts sur le speedrun Pokémon et c'est absolument génial quoi. Je fais pas de la lèche pour de la lèche, hein, mais c'est vrai que sincèrement c'est vraiment un excellent mouvement.
Et sur ce, je vous dis à tous, à la prochaine.
Ciao ciao.
Je te battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. personne sur mon chemin.